La parole est à monsieur l'avocat général pour ses réquisitions.
Monsieur le Président, messieurs de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, la partie civile, dans une plaidoirie émouvante, vient de nous faire partager le deuil d'une famille qui a été durement frappée. Certes, vous ne rendrez pas un père à ses enfants ni un mari à son épouse, mais vous pouvez leur rendre justice. Vous êtes ici pour juger les actes commis par un homme. Vous devez le faire sans haine, sans passion, conformément à l'esprit de votre serment. Vous devez tenir compte uniquement des actes. Les débats vous ont sans doute donné d'ores et déjà une idée de la culpabilité. Mais avant que vous ne vous retiriez pour délibérer, je voudrais, une fois encore, revenir sur les faits qui ont amené cet homme à comparaître devant vous et remonter à cette soirée tragique du... Il est alors 20h30. Les députés sont à table lorsqu'un premier coup de sonnette vient les déranger. Madame se lève, actionne l'ouvre-porte. Personne ne se manifeste. Quelques instants après, après qu'elle se soit rassise à la table, un second coup de sonnette vient les déranger. Décide alors de descendre pour savoir qui peut venir les déranger à leur tour. Sa femme essaye de l'en dissuader en lui montrant que ce sont sans doute des enfants qui jouent. Elle ne parvient pas à l'en dissuader. Monsieur descend. Lorsqu'il est parvenu au bas de la cage d'escalier, elle l'interpelle. Il lui répond que tout va bien, qu'il ne va pas tarder à remonter. Puis, elle se met en devoir de converser avec sa voisine qui a été dérangée dans les mêmes conditions qu'elle. Au bout de quelques instants, inquiète car elle n'entend pas son mari remonter, elle descend et elle le découvrira, étendu sur le trottoir, ensanglanté, râlant, sans connaissance. Police secours appelée vers 20h40 sur les lieux ne pourra que transporter la victime à l'hôpital et c'est à l'occasion de ce transport que... La victime, c'est l'homme tranquille par excellence. Marié, 3 enfants, très bien considéré et par ses employeurs et par ses voisins. Il est inconnu de la police, sa moralité est au-dessus de tout soupçon. Il n'a pas d'ennemis connus. Ses proches sont incapables de dire qu'il peut avoir commis cet acte. Mais, dès le début de l'enquête, un fait va frapper les inspecteurs. C'est que plusieurs témoins désignent nommément comme le meurtrier possible. Pourquoi ? Tout simplement parce que le 15 octobre, c'est-à-dire 3 jours avant les faits, à l'occasion du mariage de la jeune belle-sœur de la belle, un incident a opposé sa mère. Et à cette occasion, a proféré des menaces de mort contre des membres de la famille de la victime. Mais il faut ajouter que ce n'est pas le premier incident qui oppose aux membres de la famille. En effet, en juin 1957, il en tombe amoureux. C'est le donjon de quartier, la personne qui collectionne les succès féminins. Et d'ailleurs, nous savons que son ménage sera parfois mis en péril par ses conquêtes. Il a la mentalité du coq de village, du donjon de quartier, c'est-à-dire qu'il ne doute de rien et il ne doute pas de faire sa maîtresse. Pour mieux arriver à ses fins, il ira jusqu'à lui proposer le mariage. Mais elle n'entend pas ainsi. Elle le rejette. Et elle le rejettera d'autant plus qu'il est déjà marié et père d'un enfant. Il aurait pu comprendre et cesser de l'importuner. Mais non, il insiste, il la poursuit, il la traque. Il est toujours là, au travail, dans la rue, à son domicile. Mais son manège n'a aucun effet. Le charme ne prend pas. Alors commencent les insultes. Et alors je vais me contenter de citer des plus polies, celles que l'on peut reproduire ici, puisque le huis clos n'est pas prononcé. Il la traitera de paumée, de boudin. Il proférera des accusations qui sont injustifiées et qui sont méchantes. Il accusera de marcher avec tout le monde, sauf avec lui. Et pour cause. Et puis, les menaces, les insultes ne suffisent plus. Alors, il y aura des menaces de mort. Et je cite. « Tant que tu ne coucheras pas avec moi, je ne te laisserai pas tranquille. Après, tu pourras épouser qui tu veux. J'y mettrai jusqu'à la dernière goutte de sang. » Ce sont bien là des menaces de mort, n'est-ce pas, messieurs? Il prévient ses frères. Afin qu'il tente une intervention auprès de... Cette intervention n'aura pas de résultat. Ou plutôt, il y aura un résultat. C'est que les frères aussi seront menacés de mort. Et alors commence une longue série d'incidents que le document D53 du dossier énumère. Ce document est très éloquent car il rapporte toutes les interventions de la famille de la victime auprès des services de police afin que ceux-ci mettent une fin aux agissements de... Les menaces demeurent toujours sans effet, alors vont commencer les actes. Et c'est l'incident que vous a rapporté le jeune témoin du mois de juin 1960. À cette occasion, il a essayé une première fois de tuer et il ne peut pas s'en défendre. Il attend au bas de son domicile, il est armé, cette arme c'est un couteau de très grande dimension, probablement la même arme qui a servi à tuer. Des témoins, dont l'un est aujourd'hui décédé, malheureusement pour nous, interviennent et sauvent. Ça, il ne pourra pas le nier. Et puis vient l'incident du 15 octobre 1960, lors du mariage de... Le matin, devant le bar, le... Et plusieurs témoins l'entendent nettement proférer des menaces de mort. Je ne veux pas qu'elle se marie, je la tuerai ou je tuerai un membre de sa famille, entend l'un. Je n'ai pas réussi à tuer... J'essaierai encore de la tuer, et si je n'y arrive pas, je tuerai un membre de sa famille. Un autre témoin l'entend dire. L'après-midi, lorsque le cortège se forme, il n'a évidemment rien à faire ici, et il est encore là. Craignant qu'il ne mette à exécution ses menaces, les frères des deux futurs époux vont entreprendre une discrète surveillance. Mais le drame approche de la... C'est la première fois qu'ils se parlent et invite gentiment à s'éloigner afin de ne pas créer de scandale en cette occasion. Il lui démontre que sa présence est incongrue, qu'elle n'est pas souhaitable. Et s'éloigne sans motif. Sans motif. Et c'est là le paradoxe. Car qui connaît un peu le caractère de... sait qu'il est d'un caractère violent. Et lui-même se reconnaît violent, vif de caractère. Je vous rappelle qu'il a déjà été condamné pour coups et blessures. Je vous rappelle qu'il existe de nombreuses plaintes pour violence contre lui. En fait, s'il est d'un caractère passionné, s'il est violent et querelleur, et surtout lorsqu'il a bu. Et plusieurs témoins nous ont éclairé sur ce que pouvait être l'attitude de... lorsqu'il a bu. Il sait très bien se dominer. Et il peut alors être très maître de lui. C'est ce que démontre le rapport des médecins psychiatres qui l'ont examiné, et c'est le document B19, qui démontre un très maître de lui, pouvant feindre l'indifférence. Et ça, c'est important, retenez-le. En outre, il ne faut pas négliger ce fait. Il pratique le judo, il est même ceinture marron. Et pour qui connaît ce sport, il n'est pas difficile de savoir que c'est un sport de la maîtrise de soi. Il s'éloigne, mais il a trouvé le bouc émissaire de sa vengeance. Il n'a pas pu empêcher son mariage, il a essayé de la tuer, il n'a pas réussi. Il a menacé d'essayer encore de la tuer. Il a menacé de tuer quelqu'un de sa famille pour le cas où il ne parviendrait pas à la tuer elle-même. Or, il vient publiquement de lui faire ce que, malgré sa défense, considère comme un affront. Alors le mécanisme de pensée est simple. Toute la rancune, tout le désir de vengeance, toutes les menaces, toutes les intentions, toutes les envies meurtrières vont se cristalliser sur un seul et même homme qui vient de lui faire un affront public, qui vient d'agir en tant que chef de la famille. Mais, dès cet instant, il a décidé de tuer et tout le reste ne sera que la réalisation de cette intention. Le lundi 17 octobre, il est environ 20h30, Madame est dérangée par un coup de sonnette. Personne ne se manifeste, elle est seule, elle ne descend pas. La première tentative de a échoué. Et à cette occasion, la partie civile a eu raison de rappeler le précédent de la... vis-à-vis d'une famille dans laquelle il s'était introduit. Il aurait pu renoncer puisque sa première tentative avait échoué. Mais non, il va la renouveler. Et ce fait suffit à confirmer la préméditation s'il en était encore besoin. Et ce sera le drame. Le 18 octobre, il descend, il connaît son interlocuteur, car comment interpréter autrement la réponse faite à la femme? Et cet interlocuteur, c'était vous. La discussion ne vous a servi que de prétexte. Elle vous a permis de frapper lâchement, par surprise, et de vous enfuir. Tout vous accuse. Vous avez fini de travailler vers 18h. Ensuite, Vous avez couru les bars. Vous avez ruminé votre rancœur pendant des heures. Vous vous êtes laissé aller à votre haine. Vous avez bu. Vous avez avoué avoir bu 3 pastilles et 1 martini. Et vous précisez que vous n'étiez pas sous. Il est vrai que vous en avez l'habitude. Mais il existe des témoignages accablants pour confirmer ma thèse. À l'heure du crime, d'une part, vous étiez sur les lieux du crime, 150 mètres environ. Vous étiez dans un état anormal. Ensuite, vous avez menti sur votre emploi du temps. Vers 20h20, 20h25, vous êtes en train de consommer au bar. À la sortie, vous vous heurtez au témoin. Celui-ci, pour s'excuser, vous invite à consommer et vous entamez une discussion au coin du comptoir, comme ça se fait souvent. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, dit-il. Il vous trouve surexcité, a-t-il précisé lors de son audition. Et vous avez répondu, je suis pressé. Il est vrai, vous ne restez que quelques minutes, puis vous en ressortez, il est 20h30. Vous empruntez alors la rue des Phocéens et le témoin formel sur ce point. Un autre témoin confirme ce témoignage, c'est le témoin de la patronne qui, elle aussi, vous trouve surexcité dans un état anormal. Et pour cause, vous étiez décidé à tuer. Il est 20h30, vous avez 150 mètres à faire, vous sonnez au numéro 31, une première fois, puis une seconde fois, descend et se trouve face à vous. Pour une fois, vous ne prenez pas la fuite. Et pour cause. Vous êtes surexcité car vous avez passablement bu. Car ce n'est pas à nous que vous ferez croire que vous n'avez consommé que 3 pastilles et 1 martini. Car qui connaît un peu ces bars de quartier sait que les tournées sont multiples et que lorsque l'on commence, ce n'est pas un verre. Mais beaucoup d'autres qui suivent. La discussion que vous avez entamée lorsque vous êtes descendu ne vous a servi que de prétexte. L'autopsie est claire à ce stade-là. Il n'y a pas eu de lutte. Vous n'avez porté qu'un seul coup, par surprise, mais avec une très grande violence, celle dont vous êtes capable quand vous êtes bu, quand vous avez bu. Puis vous prenez la suite. Ce sont des faits. Quant à votre défense, elle ne tient pas. D'abord parce que vous avez menti. Vous avez donné une heure inexacte pour être rentré chez vous. Vous avez menti aussi lorsque vous avez prétendu avoir descendu des ordures. Et puis il y a aussi cette attitude équivoque au matin de votre arrestation. Et puis ensuite, pour parachever le tout, il y a ce luxe de détails que vous avez donné tout au long de l'enquête et qui, au lieu de vous défendre, vous accuse. D'une part, il y a l'emploi du temps inexact. Vous prétendez être rentré vers 20h30, 20h40. Et vous avez votre femme pour confirmer cela. On la comprend. Or, c'est faux. Car nous avons le témoignage de propriétaire de l'hôtel. Et un propriétaire d'hôtel est en principe habitué à surveiller les allées et venues qui se font dans son immeuble. Et avant même de savoir ce que l'on vous reprochait, il a indiqué spontanément, et je précise bien spontanément, que vous êtes rentré vers 21h30, 21h45. Et je cite son témoignage. Nous étions en train de regarder la télévision et l'émission en cours, une pièce, le lien, s'est terminé quelques minutes après la venue de l'immeuble, dans l'immeuble, c'est la côte détroit du dossier. Une vérification de l'horaire de la télévision rend ce témoignage indiscutable. Mais ce témoignage n'est pas isolé, car il est confirmé d'une part par le témoignage de la femme de et d'autre part par le témoin de l'auteur. Client de l'hôtel qui a assisté lui aussi à votre rentrée dans l'immeuble. Ensuite, vos explications sont fausses. Vous avez expliqué que ces témoins vous ont vu au moment où vous remontiez dans l'immeuble après être descendu pour porter un paquet d'ordures dans la rue. Or, c'était faux. C'était faux pour 3 raisons. D'abord parce que les inspecteurs de police qui sont venus vous appréhender ont constaté que il n'y avait aucune trace d'ordure dans la rue, bien que les véhicules de la voirie ne soient pas encore passés. Ensuite, vous portiez un pardessus gris et non pas le survêtement de sport que vous portez lorsque vous êtes chez vous d'habitude. Un pardessus, je répète. Or, quelqu'un qui descend dans la rue pour descendre un paquet d'ordures ne met pas un pardessus lorsqu'on est en mois d'octobre. Les nuits ne sont pas fraîches à ce point, que je sache. Ensuite, C'est une habitude que vous avez perdue depuis longtemps, depuis que votre femme est venue vivre avec vous. Très exactement. Ceci est déjà troublant, mais il y a aussi cette attitude vraiment équivoque qui a été la vôtre le matin du 19. D'abord, cette résistance inexplicable, car vous avez prétendu ne pas avoir entendu la sonnette. Or, cette sonnette est une sonnette extrêmement puissante qui suffit à réveiller tout un étage. Mais vous n'avez pas ouvert. Il a fallu que les inspecteurs de police réitèrent leur sonnerie de 6h45 à 8h10, sans succès. Ça n'est que lorsque le beau-père, votre beau-père est venu que vous avez consenti enfin à ouvrir. Et alors, il y a eu cette phrase malheureuse, cette phrase qui est un poème à elle toute seule. Avant même que les policiers ne vous aient interrogé, ne vous aient dit quoi que ce soit, spontanément, vous avez dit « je n'ai rien fait ». C'est louche. Ensuite, il y a ce luxe de détails. Tout au long de l'enquête policière et tout au long de l'instruction, vous n'avez pas cessé de mentir. Vous avez proféré des mensonges qui étaient destinés à vous défendre contre toute charge éventuelle. Vous avez nié avoir continué à poursuivre depuis longtemps. Or, de nombreux témoignages montrent que vous avez fait exactement le contraire, que vous n'avez pas cessé de la traquer. Vous n'y avoir jamais possédé d'armes. Or, on vous a vu à plusieurs reprises avec un poignard à la main. On ne peut pas vous croire quand vous flammez votre innocence. On ne peut pas vous croire. Vous avez lâchement frappé parce que vous vouliez vous venger de que vous désiriez mais qui n'a pas voulu de vous. Vous l'avez poursuivi, vous l'avez traqué, vous l'avez persécuté pendant des mois pour qu'elle vous cède. Vous l'avez insulté, vous l'avez menacé, vous avez menacé sa famille, vous avez tenté de l'assassiner, vous n'y êtes pas parvenu. Vous n'avez même pas pu empêcher son mariage. Alors vous avez frappé un membre de sa famille, vous avez choisi celui qui, à vos yeux, depuis le 15 octobre, apparaissait comme le chef, vous en avez fait le bouc émissaire de votre vengeance, vous êtes l'assassin. C'est pourquoi je requiers contre vous une peine de 20 ans de réclusion criminelle.